France Culture.
France Culture, être et savoir. Louise Touret.
Bienvenue dans Être et savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Aujourd'hui, nous allons parler de l'artisanat, nous allons aussi parler du lycée professionnel et de comment dépasser l'opposition manuelle, intellectuelle dans l'éducation et les représentations de la réussite. Il y a tout juste 18 ans, j'ai eu mon premier enfant et j'ai voulu lui fabriquer des chaussons. Ma mère m'a montré les bases du tricot et m'a raconté comment elle avait appris à tricoter dès 7 ans. Les aiguilles et tout, en famille. Elle est hyper forte, ma mère. Et dans les années 50, beaucoup de filles apprenaient aussi à coudre au collège. Les garçons faisaient de la pyrogravure. De nos jours, en Finlande, tous les élèves font du crochet et tricotent. Oui, j'y reviens, j'adore cet exemple. On parle aujourd'hui de motricité fine, si utile pour l'écriture cursive, mais pas seulement, on l'entendra dans cette heure, pendant laquelle nous allons réfléchir à la place et au rôle des activités manuelles à l'école, dans l'éducation en général. Mais le nom manuel, ce mot, est sorti de l'école. À partir de 1984, l'enseignement manuel et technique au collège, le MT, a été renommé technologie pour se centrer sur les techniques modernes. Je reprends les termes utilisés dans les années 80. Donc techniques modernes, électroniques, bureautiques, informatiques. Alors que le MT reposait essentiellement sur les techniques familiales, couture, travail du bois, alimentation, la cuisine, quoi, l'électricité. Et la techno, aujourd'hui, peine à recruter. La discipline a même été supprimée de l'emploi du temps de 6e au profit d'une heure de soutien en français et en mathématiques à la rentrée 2023. Et puis, il y a eu les groupes de niveau. On ne revient pas sur tous ces changements assez réguliers dans l'éducation nationale, mais on va se demander à quel moment on associe sa pensée et son geste à l'école. En art plastique, en EPS, on peut dire sport, hein, peut-être, mais est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on le dit que cette association geste-pensée est importante? Est-ce que c'est reconnu? Est-ce que c'est valorisé pour ce que ça apporte aux élèves? Est-ce qu'on en parle aussi dans les séries professionnelles concernées? J'en suis pas sûre, mais on va en discuter avec mes invités. Et la question de cet épisode ne sera pas tant de savoir pourquoi la place de l'éducation manuelle est si ténue. On le comprend, hein, on le devine dans la société du concours écrit et des hiérarchies scolaires. Mais quel profit pourraient tirer du travail manuel tous les élèves de 3 à 18 ans?
Comment ça se passe?
C'est un peu compliqué, enfin, c'est minutieux.
C'est la première fois que tu fais ça?
Oui. Moi, par exemple, j'ai envie de faire un métier manuel. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, enfin, au collège et tout.
France Culture.
Qu'est-ce que tu voudrais faire?
Moi, j'aimerais devenir artisan, bijoutier, joaillier.
Être et savoir.
Franchement, c'est bien parce que ça peut nous ouvrir de nouvelles voies. Ouais. C'est des beaux métiers que, même si t'es pas bon en maths, tu peux être bon à faire ça, par exemple, et
pour du coup se rendre compte que on est bon dans quelque chose.
Louise Touret.
Un petit extrait d'un reportage de 2024 diffusé sur France Inter sur des initiations au métier manuel au collège. Bonjour Gabrielle Légeret.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice et directrice générale de l'association De l'or dans les mains, donc une association qui agit pour promouvoir le travail manuel. Vous allez nous dire un peu comment elle fonctionne aussi aujourd'hui. Et vous avez dirigé un ouvrage collectif, En finir avec les idées fausses sur les métiers manuels et l'artisanat, aux éditions de l'Atelier. Alors, c'est une excellente collection dans laquelle j'ai moi-même publié, je suis obligée de le dire. Et surtout, un excellent sujet, et c'est bien pour ça que je vous invite. Dans ce livre collectif, vous examinez, vous, donc avec vos co-auteurs, qui sont hyper nombreux, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entrées dans cet ouvrage, les idées préconçues à l'endroit des métiers manuels, de l'artisanat, de leur avenir. Vous parlez de mondialisation, vous parlez de numérique, vous parlez de tout un tas de métiers et d'activités, hein, manuelles, y compris celles qu'on pratique nous, hein, le bricolage, la cuisine, le jardinage. Vous vous demandez pourquoi cette place est si ténue dans notre société, si peu reconnue, et vous commencez par l'école. Alors, pourquoi vous commencez par l'école?
Parce que c'est là que tout commence, finalement, c'est un reflet de notre société. Et si on veut replacer l'intelligence artisanale au cœur de notre projet de société, pour réapprendre à prendre soin des choses, apprendre à réparer, plutôt que d'acheter des vêtements jetables. Je dirais que c'est là qu'il faut réapprendre à faire et peut-être aussi valoriser, encourager et évaluer ses compétences.
La première entrée du livre, c'est de battre en brèche l'idée, parce que c'est un peu compliqué cette collection, il faut énoncer des idées et dire qu'elles sont fausses ensuite. Donc vous battez en brèche l'idée qu'on est soit manuel, soit intellectuel. C'est à la fois un énorme cliché, on se dit bah oui, c'est bon, on sait, mais en fait on sait pas, que pas suffisamment, que c'est une fausse opposition.
Bah oui, parce qu'on est dans un système scolaire aujourd'hui en France qui a créé une rupture entre les apprentissages théoriques et les apprentissages manuels. Aujourd'hui, un élève, il n'est qu'une note. Une note qui repose sur ses savoirs théoriques. C'est ce qui va conditionner son passage dans une classe supérieure. C'est ce qui va mettre aussi des milliers de jeunes sur le côté, sous prétexte qu'ils ne sont pas faits pour ce système éducatif. Alors qu'en fait, on le sait aujourd'hui, on est dans un système scolaire qui est conçu pour des élites et qui ne prend pas en considération de façon holistique l'enfant tel qu'il est.
Donc de façon plus complète, cette conception que vous appelez holistique, elle prévaut dans d'autres pays. Enfin, on prend souvent l'exemple des pays nordiques et on va le prendre vraiment aujourd'hui parce que quand on parle d'activité et de travail manuel, j'ai déjà cité la Finlande, ça prend du sens. Mais on reste en France hein, pour commencer. J'ai vraiment tenu à ce que vous soyez avec nous, Jérôme Fournier. Enfin, j'ai pas dû insister beaucoup. Vous êtes secrétaire national en charge des questions de l'apprentissage et du lycée professionnel au sein du syndicat SEUNSA. Et si je vous invite, c'est parce qu'il y a une grande mobilisation intersyndicale pour défendre les lycées pro à l'heure où les heures d'enseignement général sont rabotées. Et ça, on va en parler. Mais sur cette opposition manuelle intellectuel qui finalement va décider parfois de l'avenir et de l'orientation des élèves. On sait bien qu'on s'y retrouve pas forcément en lycée pro et c'est pas parce que des élèves sont orientés dans des filières professionnelles, dont je précise qu'elles ne sont pas toutes manuelles parce que professionnelles c'est beaucoup de séries, de filières, de métiers. C'est pas parce que ils sont orientés et qu'ils ont des difficultés en classe déjà et c'est pas parce qu'ils sont orientés qu'ils sont spécialement passionnés par les métiers manuels.
Ah non, ça c'est sûr. Et puis, bonjour déjà peut-être pour commencer.
Bonjour, bonjour.
mais vous avez utilisé une expression qui est révélatrice. Ils sont orientés. Le problème, il est bien là.
Bah, c'est ce que disent les élèves eux-mêmes.
Oui, bien sûr. Mais parce que le système est construit comme ça. Il faudrait qu'on arrive à construire un système où les élèves puissent construire leur parcours d'orientation et qu'on aille vers une orientation choisie. Parce qu'aujourd'hui, vers la voie professionnelle, malheureusement, ce n'est pas le cas.
Et c'est très important de le rappeler. Alors, ces élèves dont on sait aussi qu'ils vont parfois, à travers ces années d'enseignement au lycée professionnel, réparer, hein, parfois pas toujours, hein, un rapport à l'école, au savoir, aux études. Comment ils en parlent, en fait, de ces métiers manuels quand ils sont orientés dans des filières plus manuelles, artisanales ? Alors, on peut penser au métier du bâtiment, on peut penser au métier de l'électricité, par exemple.
Ben, s'ils sont arrivés par défaut dans ces formations-là, ils le vivent mal en règle générale parce qu'ils le vivent comme une forme de relégation, puisque le système scolaire est construit comme ça et parce que la société pense les choses comme ça. C'est au-delà du système scolaire. Moi, je pense qu'il n'y a pas que l'école qui amène à acquérir des conséquences, des compétences. Leur vision de la place qu'ils occupent en lycée professionnel, elle n'est pas toujours très positive quand ils arrivent par défaut et qu'on leur a finalement un peu forcé la main pour choisir des métiers pour les peut-être qu'ils vont apprendre à aimer. Rien ne l'empêche. Mais au départ, ça peut être très compliqué parce qu'en plus au lycée professionnel, comme on accueille souvent des élèves en difficulté au collège, les collègues accueillent des élèves cabossés.
Et vous, en tant qu'enseignant de lycée professionnel, est-ce que vous sentez que la reconnaissance est différente ? Alors, on sait que l'ensemble des professeurs français souffrent d'un manque de reconnaissance. C'est souvent dit dans les études. Il y en a une récente qui a paru dirigée par l'OCDE sur le sentiment des professeurs vis-à-vis de la société, de comment elle les considère. Mais est-ce que vous avez l'impression de travailler dans une institution un petit peu différente, le lycée professionnel ?
Une forme de hiérarchie qui s'impose.
Comment vous le diriez ?
Mais oui, mais il y a une forme de hiérarchie entre des enseignants de collège ou encore mieux de lycée général et technologique et des enseignants de lycée professionnel. C'est un ressenti, c'est pas forcément une réalité. Parce qu'il y a plein d'éléments qui pourraient prouver le contraire, mais le ressenti peut être celui-là. Là encore, il ne faut pas complètement généraliser, parce que tout le monde ne voit pas les choses de cette manière-là, mais c'est... oui, il y a un mot qui me choque beaucoup, mais malheureusement, ça fait partie de ce que certains pensent, c'est de considérer que c'est un lycée poubelle. C'est fort comme mot, quand même. Et malheureusement, de plus en plus, on a des personnels qui voient les choses comme ça.
Gabriel Légeré, sur malheur entre guillemets, hein, parfois associé à l'orientation subie et non choisie. C'est pas au centre forcément du livre qui parle de tous les métiers de l'artisanat et du grand bonheur qu'on peut avoir à les pratiquer, mais ça reste une épine plantée dans bien des cœurs.
Absolument, et d'ailleurs nous, parmi les artisans qui interviennent dans nos collèges partenaires, il y en a beaucoup qui le prennent comme une revanche sur l'école et qui nous disent: en fait, moi, je suis heureux de venir animer des ateliers d'enseignement manuel dans des collèges, un lieu qui m'a banni, qui m'a fait beaucoup de mal et qui m'a un peu détruit parfois. Parce qu'en fait, quand vous avez 12, 13 ans et qu'on vous dit vous n'êtes pas scolaire, vous allez aller en lycée professionnel, alors vous êtes dans la fleur de l'âge, de la construction. Ce dont vous avez besoin, c'est la confiance en soi, c'est d'être fier, et vous êtes jugé par une note. Et en fait, ça casse des millions de jeunes et c'est dur de se réparer face à ça. Donc oui, en effet, nous, on a des artisans qui le prennent comme une revanche, parce que pour la première fois, ils sont acceptés par le système de l'éducation nationale.
Marie-Liesse Giraudon, vous êtes professeure de mathématiques au collège.
Bonjour.
Annecy. Bonjour. Au collège et au lycée, mais vous avez une classe de 5e et c'est ça qui nous intéresse, parce que cette classe fait partie d'un terrain d'observation pour une doctorante en sciences de l'éducation à Lyon 2, qui fait sa thèse sur les impacts de la pratique manuelle sur la réussite éducative des élèves. Donc on est complètement dans le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est important de donner des exemples. Au collège, donc hors cours de techno, hors cours, et c'est important, hein, la techno et les arts plastiques, pour faire pratiquer des activités manuelles en mathématiques, par exemple.
Alors, c'est vrai que c'est hors d'eux, mais en fait, c'est surtout dans nos cours. C'est-à-dire que nous, on est en train de monter un petit programme pour qu'on puisse faire des maths et de l'artisanat en même temps. C'est-à-dire trouver des applications concrètes à ce qu'on est en train de faire. Mmh. Et donc, c'est pas hors de l'art plastique et hors des maths, puisqu'on travaille beaucoup avec la prof d'art plastique. Et on fait, donc concrètement, là... la semaine avant les vacances, on a réalisé une trousse en couture. Ça permettait de faire de la symétrie axiale, des pliages, de se rendre compte que les lignes de couture, elles doivent être pile au bon endroit. Et donc, si la symétrie, c'est plié. Ou alors, on a pu voir aussi, comme on a fait des patrons en miniature, on a pu utiliser les fractions, les nombres décimaux. En fait, ça a investi toutes les premières notions qu'on a travaillées en début d'année. Et... c'était une manière pour les élèves, une première manière, et on va avoir plusieurs ateliers comme ça pendant l'année, de se rendre compte de, en fait, à quoi est-ce que ça servent les maths, parce qu'on a souvent la question en cours, mais ça sert à quoi? Et aussi, surtout, à permettre d'autres angles d'attaque, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas été comprises d'une manière théorique, bah, tout d'un coup, de repasser par les mains, de se dire, ah bah oui, en fait, c'est normal de faire un arrondi au dixième près quand on est déjà dans des centimètres, parce que du coup, on arrive au millimètre, mais après, ça n'a plus de sens. Donc, de remettre du sens sur ce qu'on est en train de faire.
Ordre de grandeur, géométrie, mm-hmm. Règle de 3.
Règle de 3, là, on est en train de préparer l'atelier de cuisine qui aura lieu juste avant les vacances. Et en fait, c'est tout mon cours, du coup, j'ai dû le remanier pour le ponctuer d'exercices qui sont très culinaires. Et c'est... et ça marche très bien. C'est-à-dire que, donc, par exemple, j'ai un gâteau à faire. J'ai une recette pour 4 personnes, je veux passer pour 6 personnes. Comment est-ce que je fais? Ou j'ai besoin de tant de grammes de sucre, mais en fait, je cuisine pour 100, il va falloir que j'achète combien de paquets de sucre? Et puis après, plein de choses comme ça, dans les proportions, dans les conversions. Est-ce que un kilo de plume et un kilo de plomb, ça pèse le même poids? Ça, c'est souvent l'exemple où on nous dit, non, c'est plus léger, les plumes. Donc, convertir des litres en kilos, En fait, c'est toutes les notions qui sont au programme et qu'on voit déjà dans des exercices qui sont souvent bien faits. Mais là, le fait de mettre un atelier et qui existe dans leur vie quotidienne, et puis aussi la certaine fierté de revenir avec quelque chose, d'avoir produit quelque chose, enfin, tout ça goupille ensemble, ça crée beaucoup de cohérence à notre cours.
Est-ce que ça marche? Est-ce que les apprentissages... les bonnes notes des élèves sont au rendez-vous. Je suis désolée de reparler des notes, mais en même temps, je pense que c'est un petit peu l'objectif. Et donc première question à laquelle j'en associe une autre, parce que vous enseignez aussi au lycée et en prépa. Donc comment on fait le rapport entre ce travail qui implique les mains, une activité concrète, et l'abstraction qui est si importante pour les mathématiques et les mathématiques telles qu'on va devoir en faire dans le cursus du collège et puis au lycée si on continue en général. Abstraction qui pose problème à nombre d'élèves.
Pour votre première question, est-ce que ça marche? Donc nous, l'idée là, c'est qu'on se lance dans une expérimentation et qu'on puisse toute l'année un peu étudier justement est-ce que ça marche. Globalement, là, mes élèves ont un contrôle à la rentrée sur la symétrie et il y a un bon...
J'espère qu'ils n'ont pas oublié.
Il y a un bon tiers du contrôle sur de la couture où il y a des patrons, il y a des exemples de couture. Ça me permet de voir si les notions ont été apprises bien dans ce biais-là. Mais en tout cas, il y a sur plein de points, déjà, ça marche dans le côté « est-ce que j'ai envie d'apprendre ?» Parce que là, il n'y avait pas un élève qui était désœuvré et qui n'avait pas envie d'apprendre. Sur la retransmission aussi, on a... La préfète de niveau qui est passée, il y a un élève qui a pu lui expliquer, lui faire faire, elle, son patron, commencer à faire sa trousse, etc.
Vous avez dit préfète parce que vous enseignez dans un établissement privé,
oui,
donc
c'est ça.
L'équivalent
c'est
de la CPE.
Oui, CPE de niveau. Et puis après, sur le lien avec l'élève, c'est vrai qu'on a rarement en classe, surtout qu'on a des classes de plus en plus nombreuses. Donc là, j'ai eu un lien hyper privilégié avec quelques élèves pour leur montrer. Et je trouve que ça fait partie de l'apprentissage d'avoir un lien entre le prof et l'élève. Donc, est-ce que ça marche? Sur le côté évaluatif, j'ai pas encore les réponses aujourd'hui, mais je suis assez confiante que oui, parce qu'on fait appel à plein d'intelligences qui sont pas juste logico-mathématiques et verbo-linguistiques, qui sont les deux grandes intelligences prônées dans notre système aujourd'hui, mais toute l'intelligence manuelle, le sens du concret, de la pratique et tout. Et puis après, sur votre deuxième question,
sur l'abstraction.
En fait, l'idée n'est pas de continuer cette dichotomie entre abstraction et concret. C'est de se dire qu'on a des élèves qui sont tous différents et on parle beaucoup de différenciation. Mais comment est-ce qu'on fait justement pour nous différencier notre apprentissage? Et du coup... de faire goûter aux élèves plein de manières de faire. Et puis, ça permet d'avoir un choix qui est un petit peu plus un choix de soi-même dans l'orientation. C'est-à-dire, j'ai goûté à la cuisine, j'ai goûté à la menuiserie, au potager, etc. Et j'ai une appétence pour ça. Et du coup, j'ai envie de continuer là-dedans. Plutôt que de dire, et c'est typiquement ce que je me retrouve à dire en conseil de classe, un tel n'a pas le niveau pour passer en général. Et donc, il va en pro. Et donc, l'idée n'est pas d'empêcher l'abstraction, parce qu'en effet, le lycée, je ne sais pas si ça s'appliquera aussi bien sur le concret, etc., parce qu'en effet, c'est très abstrait. Et il y a des élèves qui sont bons là-dedans, et c'est bien qu'ils soient bons là-dedans. Mais ça ne correspond pas à tout le monde, et ce n'est pas moins bien d'arriver à avoir une bonne appréhension du réel.
Je me suis beaucoup creusé la tête sur cette différence manuelle, abstraction, et puis je suis tombée sur les travaux de Claudio Brozzoli. Bon, je suis désolée, l'accent tonique en italien, j'y arrive absolument pas et je vais pas essayer au micro. Alors, Claudio Brozzoli, il est chercheur au centre de recherche en neurosciences de l'INSERM à Lyon, à l'université Claude Bernard. Il va nous parler, écoutez bien, du proto-langage, des zones du cerveau qui contrôlent certaines fonctions donc langagières, comme le traitement du sens des mots, par exemple, et de la motricité fine. En fait, c'est les mêmes zones qui sont impliquées, ce qui pourrait expliquer que bricoler peut améliorer nos compétences en grammaire. Finalement, pour lui, la différence manuelle et intellectuelle n'a rien à voir avec le fonctionnement de notre cerveau.
Du point de vue neuroscientifique, effectivement, c'est extrêmement difficile de pouvoir soutenir cette distinction. Les langages, finalement, reposent sur des fonctions que le cerveau a sélectionnées pendant l'évolution, déjà dans d'autres espèces. Cela, par exemple, ça pourrait être une forme de proto-syntaxe qui a été sélectionnée au service du système moteur. Moi, j'ai commencé mes recherches, effectivement, du côté de la perception multisensorielle, de la représentation du corps et de l'espace, et donc de comment le cerveau peut planifier et exécuter des actions. De là, je suis passé à étudier comment on peut utiliser des outils mécaniques. Donc, on peut penser à un râteau, on peut penser à une brosse à dents. C'est des petits outils qu'on utilise de façon quotidienne, c'est-à-dire des objets externes au corps, mais qu'on intègre dans la représentation du corps et qui finalement on utilise vraiment comme s'ils devenaient une partie du corps. Bien sûr, l'exemple le plus évident de ça, ça serait une prothèse. Mais donc, quel est le lien à tout ça? C'est que dans mon idée, l'émergence de certaines fonctions qui finalement ont été réutilisées pour le langage passe à travers le système moteur. Comment ça? Lorsque l'être humain a commencé à utiliser des outils mécaniques, donc les construire, les assembler et les utiliser, finalement il a posé une pression et une demande sur le cerveau qui était celui de pouvoir gérer des séquences complexes d'actions. C'est là, finalement, ça ressemble un peu à des séquences complexes d'éléments linguistiques. Si on prend des mots, par exemple. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on pourrait métaphoriquement parler de phrases motrices lorsqu'on a des actions complexes qui seraient similaires à des phrases dans le langage. Et donc, si on voit les choses comme ça, on peut retrouver, par exemple, des formes de protosyntaxe qui étaient dédiées au système moteur, mais qui finalement ont été réutilisés pour la communication et donc implémentés sur le langage. Quelle est finalement la conséquence de tout ça? C'est que cette distinction qu'on fait normalement entre des fonctions de haute cognition comme le langage, donc de fonctions, on va dire, plus intellectuelles, et les fonctions motrices de l'autre côté, ça ne tient plus. En fait, la cognition est en même temps le côté intellectuel qui repose sur les côtés sensorimoteurs. C'est là, en gros, veut dire aussi que pour un meilleur apprentissage et pour pouvoir soutenir nos fonctions cognitives de haut niveau, on peut passer, exploiter et utiliser le système moteur.
En fait, on est toujours un petit peu dans l'abstraction. À partir du moment où on a un cube de bois dans la main, un crayon, un jouet, on est déjà dans l'abstraction.
Tout à fait. C'est vraiment très difficile de pouvoir séparer ces deux niveaux, dans le sens que déjà quand on saisit un objet, n'importe quel objet, imaginons qu'on saisit notre tasse de café. Pour pouvoir saisir cette tasse de café, finalement, on doit conformer la main de façon appropriée pour pouvoir interagir avec cette tasse. Mais donc, finalement, dans les systèmes moteurs, si on veut, il y a déjà un peu la signification de ce que c'est cette tasse. C'est-à-dire, j'ai saisi cet objet avec une prise qui est appropriée à cette tasse. Et en plus, j'ajoute, on saisit cette tasse, par exemple, parce que je vais boire le café qu'il y a dedans ou parce que je vais offrir cette tasse à quelqu'un d'autre. La prise sera différente. C'est-à-dire que l'intention et la signification de ces gestes de préhension, finalement, ça passe par le moteur, mais ça a un contenu sémantique. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, c'est difficile de pouvoir séparer complètement ce qui est le contenu abstrait, ou on pourrait dire sémantique, de quelque chose, de son, du comment on approche ce quelque chose, c'est-à-dire avec le système sensorimoteur. Lorsque on essaye de affiner un geste, que ça soit sportif, que ça soit même une production dans la production artisanale, on essaye d'affiner ces gestes à travers l'apprentissage. C'est vrai qu'on est aussi en train de mobiliser tout ce qui est un pouvoir intellectuel sur cet affinage.
Preuve par le cerveau, donc avec Claudio Brozzoli qui est chercheur à l'INSERM. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est pas seulement les gestes des artisans les plus capés qui sont là mis en avant, mais on a pris l'exemple de la tasse de café. Donc chaque geste en fait implique l'intelligence et la zone du langage. Et pour revenir à l'école, Gabriel Légeret, je voudrais qu'on parle du Slöjd. Alors si j'avais du mal avec l'accent tonique sur Brozzoli, Slöjd, je suis pas vraiment sûre de bien le prononcer. C'est un concept finlandais, mais aussi
suédois, ça s'écrit pas pareil suivant les langues, qui signifie travail manuel, un travail manuel qui est présent dès l'école primaire, avec toute une réflexion sur ce que ça apporte aux enfants. Et on en parle dans ce livre, votre livre, Gabriel Légeret, En finir avec les idées fausses sur le métier manuel et l'artisanat.
Oui, absolument. En fait, on voit que ces pays du Nord, mais ce ne sont pas les seuls, ont replacé des enseignements manuels et techniques sur des matériaux souples, durs et semi-durs, au profit des apprentissages. Et c'est, ce qui est intéressant, c'est de regarder par exemple le classement PISA. Le premier pays européen dans ce classement, c'est l'Estonie. Et l'Estonie a très bien réintégré ces enseignements pour toutes les classes d'âge et pour tous les jeunes. C'est pas seulement une option. Le Danemark et la Norvège, récemment, en 2022, justement pour contrer un petit peu ce recul de leur classement PISA, ont pareil réintégré ces enseignements.
Est-ce que je ne redirais pas ce que c'est que le classement PISA, au hasard, plein de gens le connaissent, mais c'est l'évaluation des compétences des élèves de 15 ans dans les pays de l'OCDE et un peu plus. Il y a plus de 80 pays qui sont testés à travers des échantillons. 15 ans, c'est l'équivalent de la seconde et souvent la fin de l'école obligatoire. Ça change un peu selon les pays. C'est un classement qui ne fait pas vraiment honneur à la France pour ces dernières éditions. Je vous laisse continuer, pardon.
Non, la France est très mauvais élève et c'est intéressant de voir que nous, notre réponse à chaque fois en France, c'est de renforcer les savoirs fondamentaux. Si je reprends un pays comme l'Estonie...
Appelle fondamentaux, donc français.
Les maths, les français, le français. Si on reprend l'Estonie, on a 47% d'heures de plus de cours. Et eux, leur réponse, ça va être plutôt vraiment d'intensifier en fait ce rapport à la matière à travers des enseignements manuels, techniques sur différents types de matériaux progressifs, avec un cours qui est vraiment obligatoire et qui va venir irriguer l'ensemble des matières et permettre aux enseignants de co-construire des cours ensemble. Et donc ça a un impact, eux ils le voient en tout cas, enfin ça a un impact sur la réussite éducative, mais pas seulement en fait, sur le rapport à la nature, au vivant, à la façon dont on est capable de prendre soin des choses, du monde. Aujourd'hui, les pays du Nord sont quand même un meilleur exemple pour apprendre à fabriquer soi-même, à concevoir et avoir une conscience finalement écologique et sociale dans notre façon d'habiter le monde.
Est-ce que les activités... le travail manuel à l'école, ça intègre aussi l'école dehors, on parle beaucoup ces dernières années, et qui est promue, hein, y a même un projet de loi. Est-ce que ça concerne aussi les potagers? Je le sais, parce qu'il y a un article dans le bouquin.
Oui, complètement. Vraiment, ça intègre ça. Et il faut que ça l'intègre, parce que quand on parle de ces enseignements, l'objectif, c'est quand même de reconnecter les enfants au réel. On parle aujourd'hui beaucoup de tous ces enfants qui
sont
addicts aux écrans.
Mais les livres, c'est aussi le réel. Enfin...
Oui, mais par exemple, face aux addictions aux écrans, en fait, ils sont où les autres espaces pour les enfants, pour qu'ils puissent justement avoir une prise sur le réel?
Est-ce que vous pensez, Jérôme Fournier, pardon, excusez-moi, que ça pourrait valoriser davantage les filières pro, d'avoir ces enseignements, ces concepts qui seraient importés en France? Je ne sais pas si ça peut vraiment se faire d'ailleurs, parce que c'est une culture totalement différente, mais voilà, ces concepts qui mettent en avant l'intérêt du travail manuel.
Et avant même l'enseignement professionnel, c'est à partir du moment où on rend pratique ce qu'on apprend de manière théorique, on aide un certain nombre d'élèves à mieux intégrer les notions qu'on leur apporte. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure dans votre projet en cinquième, en fait. Et c'est ce que c'était en gros quand même l'ambition de la réforme du collège de 2016 qui a été balayée par Jean-Michel Blanquer, de rendre pratique des enseignements théoriques. Alors, plus les élèves auront développé des compétences multiples, plus ils auront d'idées, des capacités qu'ils peuvent développer pour faire des choix d'orientation plus tard. Donc aujourd'hui, effectivement, au collège, à l'école et au collège, on n'est que sur de l'enseignement théorique, quasiment. Enfin, pratique un peu quand même, mais comment vous voulez faire rendre pratique les SVT et les sciences physiques quand vous êtes 25 dans un labo et que personne ne peut pratiquer? C'est ça la question, le peu de temps de pratique.
La question, c'est les demi-groupes, c'est donc la dotation horaire hein, dans les collèges aussi.
Mais pas que, le nombre d'élèves par classe, tout simplement. Il y a des collèges, des pays dans lesquels, en collège, on a 20, 21 élèves dans une classe. On n'en a pas 30, comme on peut en avoir au maximum quand même, ou 31 des fois. Aujourd'hui dans les collèges c'est très variable
une moyenne des lycées, hein.
Donc rendre pratique, il y a du travail manuel dans la pratique, mais pas que, mais de manière générale rendre pratique des savoirs théoriques, c'est fondamental pour pouvoir faire des choix éclairés quand il s'agit à un moment donné de faire des choix d'orientation. Et donc forcément que on valoriserait mieux comme ça la voie professionnelle probablement que tel que le système scolaire est organisé aujourd'hui.
Gabriel Légeret.
Et c'est vrai que c'est compliqué de dire à un élève de 13-14 ans « deviens ébéniste, c'est génial », alors qu'à aucun moment dans le système scolaire, ses compétences manuelles ont été encouragées, évaluées, valorisées. Par contre, devenir ingénieur, ça va de soi, puisqu'en fait, on fait des maths depuis toujours et ça a toujours été valorisé.
Alors, ça dépend pour qui, parce qu'on manque de filles, par exemple, pour ces formations d'ingénieurs. Enfin, on manque si on pense que c'est important d'avoir des filles et des garçons dans des filières qui sont par ailleurs assez prestigieuses. Et moi, je pense que c'est quand même important. Il y a aussi la question de mettre les élèves en activité, de ce qu'on leur demande en termes de passivité parfois, et je n'accable pas du tout les professeurs en disant ça, mais c'est difficile de rester immobile toute une journée sans pratiquer, et c'est pas forcément comme ça que ça se passe, mais un peu quand même dans les salles de classe de collège et de lycée.
Mais c'est un tout, c'est-à-dire que pour rendre les élèves plus actifs, il faut avoir plus de disponibilité à leur consacrer à chacun aussi. C'est compliqué de rendre un groupe de 30 élèves de 12 ans actifs sur une activité qu'ils n'ont pas toujours bien compris, pour lesquels les uns et les autres n'ont pas toujours exactement les mêmes compétences de base. Donc oui, c'est difficile, mais je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez beaucoup dit, c'est le mot « note ». Je ne l'ai pas compté, mais j'aurais dû le compter. Moi, je suis persuadé que si on oubliait un peu la note et on revenait à une évaluation par compétence, ce que les actuels ministres là, qui se succèdent à la vitesse de l'éclair sont en train de supprimer les uns après les autres, on regarderait les élèves autrement. Les compétences, ça intègre tout ce dont on parle depuis le début de l'émission, finalement. Et aujourd'hui, on est focalisé sur une note. Et l'évaluation par compétence, elle a cette ambition de regarder l'élève plus globalement dans tout ce qu'il est capable de faire, d'apprendre, de dire, de construire. Et ça aussi, ça pourrait faire partie d'un changement de paradigme à l'école.
Difficile, changement de paradigme, parce que les notes, mais là on ouvre sur un grand débat qu'on n'aura peut-être pas aujourd'hui, c'est aussi un point de repère pour les familles, par exemple, les parents et les élèves eux-mêmes. Je me tourne vers vous, Marie-Laise Giraudon.
En fait, la note, c'est vrai qu'elle est pratique pour le professeur parce qu'elle permet de jauger. Et je suis pas forcément contre un système de compétences, mais on peut aussi se dire qu'on note plein de choses différentes en mettant des sens différents. C'est-à-dire que je suis pas juste un 12 en maths. J'ai été un 12 en géométrie cette fois-ci. Et puis là, j'ai eu 16 à ce devoir de calcul, etc. Ça me semble pas aberrant, en fait, de mettre des notes sur plein de choses différentes et puis de mettre une note sur un projet et de se dire, bon, bah, OK, en maths cette année, ça s'est peut-être pas très bien passé. Mais en fait, dès qu'il s'agissait de mettre la main à la pâte, de pratiquer manuellement, bah là, j'avais une bonne note. En fait, d'avoir des bonnes notes, c'est aussi valorisant. Et je trouve que c'est ça qui manque, c'est que en tant que prof, on est heureux de mettre des bonnes notes, au final. Ce qu'on aimerait, c'est que l'élève, il puisse s'épanouir et qu'il puisse trouver ces lieux où, en fait, il est bien, où il performe.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons en sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir.
Les mains d'or, Bernard Lavillier, évidemment qu'on a pensé à ce titre, puisque Gabrielle Légeret, vous êtes fondatrice et directrice générale de l'association De l'or dans les mains. Aujourd'hui, on parle de la fausse opposition manuelle intellectuelle, mais aussi de comment valoriser le travail et les activités manuelles à l'école et peut-être plus généralement dans la société. Cette association intervient dans les établissements scolaires, mais pas seulement. Comment ça fonctionne? Qui vous finance? Est-ce que vous êtes un genre de lobby?
Non, non, on est une association d'intérêt général. On a l'agrément de l'Éducation nationale. Donc nous, notre mission, c'est vraiment de réintégrer la pratique manuelle au collège. Et donc, on déploie des programmes pédagogiques dans les collèges publics où des artisans vont intervenir pour faire fabriquer des objets aux jeunes en lien avec leur programme scolaire. Et nous, c'est vraiment l'ADN de notre association, c'est-à-dire qu'on a une communauté d'artisans qu'on a accompagnés, qu'on a formés à notre méthodologie pour qu'ils puissent animer des ateliers avec une dizaine de jeunes à chaque fois où l'enfant va apprendre à fabriquer une étagère en lien avec une notion de son programme de maths. Et donc ce programme, c'est entre 10 et 15 heures tout au long de l'année scolaire, sur le temps scolaire, pour tous les élèves. C'est-à-dire que c'est obligatoire quand on arrive dans un collège, c'est pour tous les élèves de 5e. Parce qu'on a vu que 12-13 ans, c'était vraiment un âge pivot. Parallèlement, on a aussi vraiment en effet une action de plaidoyer d'impact et de recherche, d'où la thèse dont vous avez parlé, et d'où le livre, pour vraiment essayer de collectivement de montrer à quel point c'est pas du tout un enjeu économique de replacer la pratique manuelle à l'école. On n'est pas là pour répondre à un besoin des entreprises. On est là pour permettre à chaque jeune de révéler son potentiel et de se reconnecter au réel, à la matière, au profit de sa réussite éducative. Nous, aujourd'hui, si on peut agir dans les établissements scolaires, c'est grâce en partie par le Pass Culture. Et puis, on a un parterre de fondations d'entreprises, de fonds de dotation, de collectivités territoriales et de ministères qui financent.
J'avais vérifié. Et c'est facile de trouver des partenaires privés qui vous financent. Moi, j'ai l'impression que l'artisanat a plutôt la cote, pas forcément, et on va l'entendre dans très peu de temps, dans le réel, mais en termes d'image. Alors, est-ce que vous trouvez facilement des financements? Et d'ailleurs, et ça pose quand même question, que ce soit des financements extérieurs qui arrivent à l'école aussi via...
Mais souvent, c'est ça, avant que les choses deviennent une politique publique. Si on prend l'exemple du plan Un jeune, un mentor, ça a été un parterre d'associations qui ont fait du mentorat dans les collèges grâce au privé, parce que l'État ne peut pas tout, ne peut plus tout. Et en effet, c'est une politique publique qui réintégrerait les enseignements manuels et techniques, ça coûte cher. C'est un choix politique. Et aujourd'hui, on préfère mettre l'argent ailleurs.
Donc à défaut de choix politiques, ouais, ce sont des associations qui prennent le relais.
Exactement. Mais c'est fragile, en fait.
Mais vous ne m'avez pas répondu. C'est facile de trouver des financements?
Moi, c'est mon travail. Et non, c'est dur. C'est difficile. Voilà, on a 4 ans. On a mis 4 ans à avoir un budget annuel de 1,5 million. Et en fait, il nous en faudra bien plus si on veut vraiment avoir un impact systémique.
C'est intéressant aussi de se demander de quoi dépend l'école aujourd'hui. Et je pense qu'on en reparlera dans l'émission. Alors, si on doit parler de métiers manuels, il faut qu'on écoute aussi des jeunes. On a entendu un tout petit peu des petites voix au début. Et on va vous faire entendre la voix d'Héloïse. Alors, Héloïse, on l'a rencontrée car sa mère est chercheuse en enseignement de la littérature. En fait, on l'entendra un peu dans une autre émission qui sera diffusée en novembre. Son père est prof de philosophie au lycée et elle a choisi un métier qui est celui de tailleur de pierre. Je ne sais pas si on le féminise ou non. Et elle a choisi cette formation au lycée en seconde. Écoutez-la en parler.
Tout est parti déjà du fait que le lycée et l'école, ce parcours-là, pour moi, était plus supportable. Et pour plein de raisons, c'est même pas forcément que j'étais mauvaise élève. Mais moi, c'était des schémas qui me convenaient plus du tout. Donc j'avais besoin de faire des trucs avec mes mains, quoi. Ça, je le savais. Je savais pas trop dans quoi. Et un petit peu par hasard, j'ai découvert la taille de pierre sur un chantier de maçonnerie. Et c'est vraiment juste en faisant une coulure de chaux sur le côté de la pierre avec un burin un peu pourri et un marteau que j'ai demandé au mec, j'ai dit au mec que j'aimais bien ça. Et il m'a dit qu'il y avait un CAP dans les coins et je me suis lancée un peu sur un coup de tête. Et puis après, la passion est venue petit à petit.
Qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais ? Qu'est-ce qui te plaît dans toutes les dimensions de ce travail qu'on dit manuel ? Parce que c'est peut-être pas seulement manuel, en fait. Explique-moi ce qui te plaît.
Carrément. C'est très vrai ce que vous dites. Et c'est souvent le côté qu'on voit pas. C'est qu'en fait, j'ai un métier. Moi, je crois que le fait que ça m'a autant passionné, je pense, c'est que c'est un métier qui est autant manuel que mental pour moi, en fait. Les réflexions peuvent être énormes dans la sculpture ou dans la taille de pierre ou même dans la maçonnerie, hein, quand on parle de poses complexes. Les réflexions peuvent être vraiment titanesques, en fait. Tu rentres du taf, t'es fatigué physiquement et mentalement, tu le sens complètement. Il y a quelque chose qui m'intrigue, en fait, où c'est indescriptible comment la pierre, elle t'absorbe un peu d'une certaine manière quand tu travailles, quoi. La taille de pierre, il y a un côté très mécanique quand on travaille, on va dire. C'est un tailleur de pierre, plus il va être régulier dans son coup, dans ses tracés, dans l'intensité qu'il met, on va dire. C'est un peu compliqué de juste l'expliquer avec des mots. Plus il est bon, plus faut être régulier. Et donc, en fait, faut réussir à garder une espèce de cadence qui reste exactement la même. Et si tu fais ça pendant toute une journée, même tu fais ça de 8h à midi non-stop, mais t'es dans un état, c'est indescriptible, quoi. T'es complètement absorbé. Et dans une sculpture, même s'il n'y a pas ce côté mécanique de la taille de pierre, parce que la taille de pierre, on est vraiment sur de la géométrie et de la moulure, la sculpture, ton ciseau, il va un peu plus danser sur ta sculpture, mais c'est pareil, quoi. Moi, je sais que le monde s'arrête totalement de tourner. C'est assez dingue à vivre, et je suis pas sûre qu'il y ait grand-chose d'autre qu'à part les métiers d'artisanat qui peuvent te faire vivre quelque chose comme ça, quoi.
En fait, on vit dans une société où les distractions se multiplient. On parle souvent de zapping avec le smartphone, d'interruptions, de problèmes d'attention. Et on a l'impression, à t'écouter, que le travail manuel, qui n'est pas que manuel, on peut le redire, eh bien ça règle cette question de l'attention et quelque part ça apaise peut-être quelque chose. Est-ce que c'est ce que tu penses ? Comment tu le dirais, toi ?
C'est vrai que c'est intéressant comme question, parce que en même temps, je suis dans un métier où j'ai pu voir beaucoup de jeunes quand même dans mes formations qui avaient des problèmes d'attention, ce genre de choses. Et il y a un truc qui est hyper intéressant où moi je trouve que la pierre, ça dépasse ce côté-là, quoi. Même moi, je pensais que j'en avais, en fait, avant de faire ce métier. Je me suis dit que j'avais des problèmes d'attention, d'hyperactivité, ce genre de choses. Donc après, l'hyperactivité, ça peut aller ailleurs, mais je pensais que j'avais vraiment ce problème-là, notamment parce que ce qu'on dit beaucoup sur les jeunes aussi, c'est que en cours, ils sont plus du tout concentrés, par exemple. Et en fait, moi, je me suis découvert à pouvoir être capable de rester 8 heures à sauter ma pause midi sans m'en rendre compte, tellement j'étais concentrée dans mon truc, tellement il y avait rien qui pouvait me déranger. Et en parlant avec d'autres élèves, ils ont ce même ressenti-là. Donc en fait, la question de plus réussir à mettre du focus sur quelque chose, faut aussi se poser la question de, en fait, quand tu l'aimes vraiment, il y a plein de moments où ça marche. On n'est pas tous des hyperactifs incapables de se concentrer. Faut aussi réussir à trouver ce qu'on aime. Et quand tu arrives à prendre un jeune et le passionner pour un sujet, mais en fait, rester concentré pendant des heures, si ça l'intéresse, c'est possible. S'il n'a pas cette déficience de l'intention, c'est possible.
Alors, formidable parcours que celui d'Héloïse, parcours d'artisans. On se dit, c'est génial. Elle a trouvé sa voie. Elle arrive à se concentrer. Et en même temps, on a parlé des problèmes de ces formations, des enseignants qui sont pas extrêmement payés, qui n'arrivent pas à rester toute l'année faute de salaire, du manque de formation pour continuer ces études, des filles et des garçons qui sont, enfin des filles qui ne sont pas très présentes, on peut dire, dans les métiers de la taille de pierre et du bâtiment, la maçonnerie aussi, parce que c'est ce qu'elle fait, Héloïse. Et elle m'a dit quelque chose qui devrait tous nous interpeller.
On l'a dit plein de fois, vous avez de l'or dans les mains, c'est magnifique le métier que vous faites, mais l'or, il est où? On aimerait bien le sentir l'or dans nos mains, quoi. Les salaires en tant que sculpteur Jean-Pierre, ils sont pas si dingues. C'est même pas vraiment un métier en France, quoi. J'ai pas de diplôme, moi. J'ai fait 2 ans d'études et j'ai pas de diplôme. C'est pas normal. Ils font des équivalences, des petits trucs comme ça. Je crois que là, c'est l'équivalent d'un CAP qui vient d'ouvrir à Châtres. Et c'est tout. C'est tout. Et c'est pas des formations. Quand on sort, en fait, si vous voulez, on peut pas vraiment se dire qu'on est sculpteur, quoi. Et ça, c'est pas normal.
Alors, il est où, l'or, Gabriel Léger, l'or dans les mains?
La question du salaire, c'est une vraie question. Mais en fait, quand on parle de métier manuel, il y a vraiment un éventail très large. Chez Delors dans les mains, on a 100 métiers qui sont représentés parmi nos artisans. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que c'est très hétérogène. Les métiers d'art sont particulièrement fragiles parce que ce sont des métiers de niche. Métier de plumassier, par exemple, ça répond pas aux mêmes besoins que les métiers du bâtiment.
Qu'est-ce que c'est, plumassier?
C'est le travail des plumes, l'ornement, l'embellissement avec les plumes.
Voilà. Pour les chapeaux, par exemple?
Pour les chapeaux, pour les costumes, pour les lampes, les lampadaires, les bijoux. Mais aujourd'hui, avoir un bac général et faire 5 ans de droit, ça ne vous assure pas forcément un meilleur salaire qu'un menuisier. Je trouve que les choses sont en train de se renverser. Ce n'est pas le cas sur tous les métiers, mais un menuisier, un plombier, notamment dans les métiers du bâtiment, qui ne sont pas des métiers d'art, mais vraiment des métiers manuels, aujourd'hui, la vapeur est en train de s'inverser. Après, la question, c'est la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on laisse entrer dans notre pays des biens qui détruisent nos emplois. On le voit bien avec ce qui se passe avec Temu et Chine. C'est-à-dire que, en fait, permettre d'acheter de façon frénétique des vêtements, des objets qui sont faits à moindre coût, dans des conditions sociales, écologiques, que nous, on n'accepte pas dans notre pays. En fait, tant qu'il n'y aura pas des barrières en France et où on soutiendra, en fait, l'artisanat et qu'on revalorisera le désir, en fait, de posséder des objets.
Alors, un peu plus que l'artisanat, alors l'industrie.
L'industrie aussi. Mais aujourd'hui, ça coûte moins cher à court terme d'acheter un meuble chez Ikea que...
Vous citez tellement de marques, je ne sais plus quoi faire avec toutes ces publicités ou contre-publicités, mais effectivement, le fait d'avoir des produits manufacturés extrêmement peu chers, c'est
qui
la société de consommation. Voilà, on peut penser aux choses de Pérec. Ça fait longtemps que c'est décrit et en même temps, on voit combien la désindustrialisation, ça a touché l'emploi. Et je me tourne vers vous et je veux faire une transition vers le lycée professionnel parce que moi, quand on savait qu'on allait faire cette émission, et puis mi-octobre, j'ai vu que ça avait cette mobilisation des syndicats enseignants concernant le nouveau calendrier des filières professionnelles. Alors, on peut dire qu'il y a de plus en plus de temps qui est passé en entreprise, que des enseignants le déplorent, pas toujours les élèves, parce que c'est plus compliqué du côté des élèves vis-à-vis de l'enseignement plus académique parfois, mais quand même, peut-être qu'on les prive de quelque chose. Je voudrais vraiment qu'on en parle ensemble. Jérôme Fournier, aussi des réformes successives du lycée professionnel, puisque maintenant c'est 3 ans, il y a quelque temps, ça fait des années maintenant, c'était une réforme de Jean-Michel Blanquer, ça durait 4 ans. Est-ce que vous avez l'impression qu'on fait des économies sur le dos du lycée pro?
Alors je ne sais pas si on fait des économies, mais par contre on est en train de l'affaiblir. La dernière réforme, notamment, et elle met les élèves en difficulté, en même temps que les personnels.
Alors, la dernière réforme qui découpe le temps des élèves en donnant plus de temps aux élèves dans l'entreprise, ils sont par ailleurs un peu rémunéré. Mais expliquez-nous.
Pas que dans l'entreprise, mais la dernière réforme en terminale, effectivement, elle prévoyait, alors c'est comme ça que ça a été mis en place l'année dernière, 6 semaines à la fin de l'année, après le passage du bac, soit on reste au lycée pour préparer une poursuite d'études et on continue des cours au lycée, généraux et professionnels, soit on va faire 6 semaines en entreprise pour s'aguerrir à l'insertion professionnelle. Ça a été une véritable catastrophe, hein. Enfin, il faut dire ce qui est, il n'y avait personne dans les lycées. Et même en entreprise, on a eu un taux d'absentéisme comme on ne voit jamais en lycée professionnel. Alors, c'est peut-être dû au fait que ça soit après le bac et qu'on a un système scolaire qui n'est tenu que par des carottes. Alors, si la carotte, c'est la
note. On parlait des notes, oui.
Voilà. Ou alors, c'est l'examen. Donc, peut-être que la raison est là. Mais toujours est-il que cette réforme, elle a fait perdre 6 semaines de formation de manière globale, soit en lycée, soit en entreprise, aux élèves. Et ça, c'est pas acceptable. Alors, le gouvernement a décidé de revenir un peu en arrière en faisant 4 semaines au lieu de 6, mais ça résoudra pas le problème. On résout pas le problème comme ça. Aujourd'hui, si on veut mieux préparer les élèves, soit à la poursuite d'études, parce que c'est un des enjeux du lycée professionnel, soit à l'insertion professionnelle, parce que c'est l'autre enjeu du lycée professionnel, eh bien, il faut se garantir que les élèves fassent leur année complète de terminale. Alors que là, c'est pas possible d'accepter qu'on ait perdu le mois de juin. On parle souvent de reconquête du mois de juin. Alors là, au lycée professionnel, c'est la catastrophe absolue. On l'a perdu.
Alors, on parlait de la place des enseignements manuels dans le cursus général, dès la primaire, l'intérêt que ça peut avoir avec l'exemple des pays nordiques. Quid de la place des enseignements généraux au lycée pro? Est-ce que cette place diminue? Comment la valoriser? Parce que je crois que c'est un petit peu la question qui se pose à cet endroit de la scolarité.
Alors, elle diminue effectivement régulièrement depuis... enfin, toutes les réformes, toutes les dernières réformes ont fait diminuer le nombre d'heures d'enseignement général. Alors, pour nous, c'est un problème parce que le premier, c'est qu'on accueille des élèves qui sont, comme je disais en introduction, souvent en difficulté. Scolaires au collège. Donc, on a besoin de les rattraper d'une certaine manière dans les enseignements généraux, là où ils ont des difficultés. Donc, moins on a d'heures pour le faire, plus c'est difficile. Le lycée, il doit préparer à la fois l'insertion professionnelle, et je pense que les métiers manuels ou l'intelligence manuelle, comme vous l'appelez, Madame Légeret, elle fonctionne aussi avec l'intelligence, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, académique. Si elle n'est pas académique, voilà. Donc, on a besoin de ces cours-là, et on a besoin aussi d'une formation initiale, à la fois d'enseignement général et professionnel solide, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nos élèves, qui deviendront les futurs salariés, travailleurs indépendants, de notre pays, ils ne feront pas le métier qu'ils ont appris peut-être toute leur carrière. Et donc, si on veut pouvoir rebondir le mieux possible dans une réorientation professionnelle en cours de carrière, il faut avoir la meilleure formation initiale de base. Et c'est en ça que qu'il est important de ne pas continuer de réduire les enseignements généraux au lycée professionnel. C'est pas une opposition aux enseignements professionnels, hein, ou au PFMP, les fameuses périodes de formation en milieu professionnel. C'est pas une opposition, mais c'est que tout va de pair et il faut pas réduire les uns au profit des autres de manière déséquilibrée.
Marie-Élise Giraudon, professeure collège, lycée.
Je voulais rebondir justement et à la fois sur ce qu'a dit Gabriel Légeret et sur ce qu'a dit Jérôme Fournier. C'est-à-dire qu'on a 37% des personnes, tous âges confondus, qui se reconvertissent aujourd'hui. Ce qui est en fait une énorme partie de la population. Et parmi lesquelles, on en a 51% qui ont moins de 35 ans. Comme quoi, notre orientation actuelle, elle est quand même assez mal choisie. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est que parmi ces 37%, on en a 35% qui sont issus de classes socio-professionnelles supérieures, là, les CSP+. Alors qu'en fait, quand on oriente les élèves au début de leurs études, ça représente que 8%. Donc en fait, la question du salaire, c'est un argument quand on est jeune de se dire « mais je vais pas gagner assez ». Mais en fait, après 10 ans d'un métier où en fait on n'est pas à notre place, on en vient à se reconvertir 10 ans plus tard donc. Et on aura perdu du temps, on aura perdu de l'expertise. Et puis finalement, on est OK pour accepter ce salaire-là 10 ans plus tard. Donc c'est un peu du temps perdu à ce niveau-là.
Et ça coûte cher à l'État, parce que je crois que c'est 130 000 décrocheurs post-bac. Ça veut dire que 130 000 jeunes qu'on a laissés aller en lycée général et qu'une fois qu'ils sont dans le supérieur, ils ne se retrouvent pas.
Oui, il y a aussi beaucoup de décrocheurs en lycée pro, même un peu plus, mais il y a moins de décrocheurs qu'il y a 20 ans, mais tout de même, encore beaucoup trop, et beaucoup de jeunes sans formation, les fameux NEETs, c'est-à-dire sans formation. Ni travail. Et en vous écoutant, je pensais aussi, est-ce qu'on peut pas avoir des métiers où il y a les deux dimensions? Vous savez, quand on fait de la radio, on fait du montage. En tout cas, moi, j'aime beaucoup faire du montage, et c'est une activité manuelle, bien qu'intellectuelle. Alors, ça l'était encore plus au moment où il y avait les bobineaux, les bobines de son. Maintenant, c'est sur ordinateur, mais c'est vrai que cette dimension, elle permet une forme de concentration, elle permet aussi de sortir des oppositions, même si ce n'est pas une question qu'on se pose dans la vie de tous les jours, cette opposition hyper vieille sur laquelle je reviens, entre le travail manuel et l'activité intellectuelle. Il y a très longtemps, il y a 50 ans, on avait posé la question à Michel Rocard, qu'est-ce qu'il ferait s'il était au pouvoir? Et c'est parce que la réponse est intéressante qu'on vous la diffuse, pas parce qu'on est des fans de Michel Rocard ou qu'on a eu notre carte au PSU. Il répondait donc à la question d'un journaliste sur cette opposition, ce qu'il ferait s'il pouvait changer les choses.
Le problème vrai qui se pose, c'est de refuser même la coupure entre les deux. C'est qu'au travers de leur vie, les hommes aient l'occasion de faire un peu des deux, et surtout que dans l'organisation des tâches dans notre société, il n'y a pas cet émiettement du travail qui le rend abrutissant pour certains et exclusivement enrichissant pour une petite couche limitativement définie. Ce qu'il faut au contraire, c'est repenser l'organisation même de notre société, pas seulement au plan politique, mais au plan de l'organisation de la production. Qu'il y ait une possibilité de créer à travers l'organisation du travail de chacun. C'est en effet un des objectifs du combat socialiste que de revenir sur cette division du travail qui nous paraît un des éléments principaux de l'ennui profond que secrète notre société pour ceux qui y vivent.
Ennui profond du travail, alors on ne parle pas des artisans, hein, mais on parle peut-être, je ne sais pas, de certains métiers type cariste, certains métiers d'ouvriers qui utilisent non pas l'intelligence de la main, mais le corps, des métiers physiques. Est-ce qu'il n'y a pas une grande question à se poser sur comment on travaille aujourd'hui, Gabriel, je ne sais pas complètement dans le livre, mais c'est la question que pose aussi l'orientation, le lycée professionnel, et je crois qu'on doit se la poser un petit peu aujourd'hui, même s'il ne nous reste plus beaucoup de temps, Jérôme Fournier.
C'était déjà ce que dénonçaient les ouvriers spécialisés au début du XXe siècle, d'avoir des tâches répétitives qui n'avaient plus de sens. Donc peut-être que l'enjeu, c'est d'avoir des formations qui donnent tout leur sens au métier que les jeunes apprennent, quel que soit l'âge et quel que soit l'endroit où ils l'apprennent, mais un métier qui fasse sens. Peut-être que le métier d'artisan, il fait plus sens, parce qu'on va fabriquer un objet de A à Z, le concevoir, le vendre peut-être même parfois.
Et c'est ça, Gabriel Légeret, qu'offre l'idée, hein, de métier manuel et d'artisanat. C'est un métier qui a du sens, et c'est ce sens dont se sentent dépossédés beaucoup de travailleurs physiques, mais aussi des gens en col blanc, comme on dit, enfin dans les bureaux.
Oui, en fait, tout le monde ne peut pas être artisan, mais dans les métiers manuels, on voit aussi beaucoup d'entreprises qui ont pris à bras le corps ce sujet pour repenser leur organisation et faire en sorte que leurs salariés ne soient pas uniquement sur une monotâche, mais puissent en fait concevoir, par exemple, un jean de A à Z et d'être sur les différentes étapes. Mais le sens, il est important, et il se pose aussi dans la question des apprentissages. Face à l'arrivée de l'IA, les jeunes ont absolument besoin de retrouver le sens de leur apprentissage. Pourquoi est-ce qu'on mobilise cette connaissance si l'IA peut le recracher aussi bien que moi? Parce que je peux fabriquer des choses avec, peut-être.
Et ça, c'est ce qu'on ne pourra peut-être pas nous prendre, l'intelligence de la main, et j'espère l'intelligence tout court, puisqu'on a bien entendu que c'était la même chose. Merci beaucoup, Gabriel Légeret. Je rappelle le titre de votre livre, En finir avec les idées fausses sur les métiers manuels et de l'artisanat, publié aux éditions de l'Atelier. Je dois dire merci à Avril Ventura, adjointe à la production d'Être et Savoir, une émission réalisée par Camille Mathy, avec Guillaume Ficheux à la technique. Je voulais vous dire aussi un truc important, la chanson You've Got The Friend n'est pas une reprise de James Taylor, mais de Carole King. Et si j'enlève la création d'une chanson à une femme, c'est grave. Et puis, je vous parle d'un petit manuel d'éveil olfactif pour petits et grands, publié par l'association Nez en Arbre. Je vais vous l'offrir, Gabriel Légeret, parce qu'il est question d'apprendre autrement aussi, avec plein d'exemples d'activités. C'est très curieux, ce livre. Je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres et je vais regarder en primaire ou plus tard. Et j'espère qu'on va me le renvoyer parce que ça m'intéresse de le relire. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous rappelle que l'émission est disponible évidemment en podcast.